Chapitre 76. Lorsque la Mésa fut enfin en vue, la jungle maléfique n'était presque plus qu'un mauvais souvenir. Revenue à un niveau normal sans risque pour la vie, la végétation restante participerait à la renaissance de la vallée. La magicienne ne se rengorgeait pas de sa victoire, non, celle de Chardon. Comme il convenait, elle avait fait son devoir. Pour y parvenir, elle s'était découvert une aptitude à aimer qui lui glaçait les sangs. À présent, il allait falloir vivre avec. Tandis que la végétation surnuméraire autour d'elle finissait de crever, Nietzsche capta un mouvement du coin de l'œil. Émergeant de la forêt moribonde, Mara vint marcher à côté de sa sœur. Pas assez près pour qu'elle la touche, mais suffisamment pour lui tenir compagnie. Dans leur lien, Nietzsche puisa de la force. La panthère aussi semblait avoir besoin de réconfort. Au pied de la Mésa, Nietzsche vit que le chemin pentu avait souffert de l'attaque des végétaux. Des lianes mortes pendaient encore à la roche et des prises avaient disparu. Mais la magicienne ne douta pas un instant qu'elle réussirait à monter jusqu'au complexe. Comme d'habitude, Mra émit un grognement modulé, un au revoir, pas un adieu, puis s'éloigna au pas de course. Mais elle reviendrait. Nietzsche entreprit l'ascension. Avec son pouvoir, elle fit basculer dans le vide les blocs de roche qui ne tenaient plus assez solidement à la paroi, une saine précaution qui lui facilita grandement la tâche. Nathan, Bannon et une foule excitée attendaient la magicienne dans les couloirs. Massés autour de l'ouverture, tous ces gens avaient vu l'infestation verte se flétrir et mourir.
« Il faut fêter ça !»
cria quelqu'un. Nietzsche ne vit pas de qui il s'agissait et ne chercha pas à le savoir.
« Réjouissez-vous entre vous, » grogna-t-elle, « et ne me transformez surtout pas en héroïne. »
La maîtresse de la vie éliminée ainsi que son œuvre, il y avait vraiment de quoi faire la fête, sauf pour Nietzsche. Se réfugiant dans un cocon impossible à briser, au plus profond d'elle-même, elle décida d'y rester aussi longtemps qu'il faudrait. Contrairement à ce qu'elle avait cru à un moment, elle ne redeviendrait jamais la maîtresse de la mort. Cette partie sombre de sa vie appartenait au passé et elle avait promis à Richard de l'y laisser. Perpétrer des horreurs pour l'empereur Jagang lui avait servi de leçon. Même si le sang de Chardon avait permis de détruire Victoria, Nietzsche refusait d'être de nouveau vulnérable, en aimant par exemple. Plus jamais. Elle avait sauvé le monde. Que lui demander d'autre? Même si Chardon ne serait plus là pour le voir, la vallée redeviendrait belle et fertile. Troublés par sa déclaration, les érudits et les mémoristes ne savaient plus quoi dire. L'air inquiet, Nathan regarda sa compagne de voyage, puis il hocha la tête et baissa la voix.
« Tu n'es pas obligé de danser et de chanter, magicienne. Mais tu as vaincu Victoria. Il y a de quoi te sentir satisfaite. »
Nietzsche dévisagea longuement le sorcier avant de répondre.
« Je vais plutôt décider de ne plus rien sentir du tout. »
Sur une suggestion de Nietzsche, même si c'était évident dès qu'on y réfléchissait une minute, ils enterrèrent Chardon à la lisière de la vallée, là où une végétation saine et amicale avait recommencé à pousser. Portant le petit cadavre enveloppé dans la peau de mouton que la fillette aimait tant, Nietzsche, le cœur lourd comme une pierre, trouvait que sa disciple ne pesait presque rien. Suivie par Franklin, Gloria et d'autres mémoristes et érudits survivants, elle marcha jusqu'au point qu'elle estimait parfait. Une butte d'où on avait une vue merveilleuse sur la vallée en voie de renaissance, le rêve de la gamine depuis toujours.
« C'est ici, » dit la magicienne. « Chardon aurait choisi cet endroit. De là, elle aurait pu voir la vie reprendre ses droits dans son pays. »
Alors que des larmes lui montaient aux yeux, Nietzsche tourna la tête vers Nathan et Bannon, aussi décomposés l'un que l'autre. Le jeune homme pleurait à chaudes larmes, et le sorcier, malgré tant de deuil au fil d'une vie trop longue, semblait touché à mort par la disparition d'une seule petite fille entêtée et courageuse.
« Son esprit pourra dire au Créateur à quoi doit ressembler la vallée, »
souffla Nathan.
« Je suis sûr qu'elle saura se faire entendre, » renchérit Bannon. « Quand elle avait une idée dans la tête,
il ne put pas aller jusqu'au bout de sa phrase. Nietzsche se contenta d'acquiescer. En elle, des idées, des émotions et des mots tourbillonnaient, mais ils resteraient où ils étaient. Chardon saurait, où qu'elle soit, et cela seul comptait. D'un geste, Nietzsche invoqua un flux de magie qui retourna la terre à l'endroit qu'elle avait sélectionné. Comme à Renda-sur-Bey, une tombe se creusa toute seule, ultime lit douillet pour l'adorable Chardon. Dans un silence plein d'amour et de respect, Nietzsche déposa la peau de mouton au fond de la petite tombe. « Tu ne pourras pas aller plus loin avec nous, » dit-elle. « Je sais que tu aurais aimé découvrir tous les pays qui nous attendent. Mais d'ici, tu verras au moins ta vallée. J'espère qu'elle sera comme dans tes rêves. » Les bras et les épaules tétanisés, rien d'étonnant quand on s'efforce contre toute logique de ne pas trembler, Nietzsche prit une profonde inspiration. En même temps que Nathan et Bannon, elle baissa les yeux sur la petite dépouille, puis d'un simple sort, elle força la terre à retourner dans le trou. « Devons-nous marquer l'emplacement de la tombe ?» demanda Gloria en désignant le carré de terre fraîche qui ne se distinguerait bientôt plus de son environnement. « Une stèle ou un poteau, par exemple ?» Nietzsche se souvint de la réaction de Chardon durant une de leurs conversations. De sa vie, la fillette n'avait jamais pu contempler la beauté naturelle du monde. Aux sources de Verdun, elle avait vu son oncle et sa tante lutter pied à pied pour arracher un peu de nourriture à une terre sèche et stérile. Des fleurs, un beau carré de fleurs, c'est ce qu'elle aurait voulu sur sa tombe. Avant que ses compagnons et elle s'en aillent, Nietzsche organisa une réunion où elle s'adressa à toute la population du canyon. Les érudits et les mémoristes, bien sûr, mais aussi les fermiers, les travailleurs, les chasseurs et leurs familles. Pas commode, la magicienne ne fit pas dans la dentelle. « En quelques semaines, nous avons dû sauver le monde deux fois, toujours à cause de votre ignorance et de votre maladresse. La seconde fois, le prix à payer fut... » Nietzsche balaya du regard les détenteurs du don qui tentèrent de se faire tout petits. « Vous êtes mal formés. Il y a des millénaires, vos ancêtres ont été chargés de veiller sur un trésor de connaissances. Un savoir dangereux, ne l'oubliez pas. Surplomb du monde n'est pas une bibliothèque, mais une armurerie. Les livres et les rouleaux de parchemin sont des armes, et il est très facile de mal s'en servir. »
« Avec des résultats désastreux, » enchaîna Nathan. « Malgré tout ce que je reproche aux sœurs de la lumière et à leur fichu collier de fer, elles se consacraient à former des sorciers, et c'était une bonne chose. Avec tous les sortilèges entreposés ici, vous ne pouvez pas faire mumuse comme des gosses en espérant que ça ne vous explose pas à la figure. »
« Si on se consacrait au travail d'archives, » proposa Franklin, « c'était le plan de Simon, et ça nous occupera pendant des décennies. »
Gloria écrasa une larme au coin d'un de ses yeux.
« Les mémoristes peuvent aider à comparer les grimoires physiques aux connaissances gravées dans leur esprit, mais qui formera nos successeurs ? Nietzsche et Nathan, seriez-vous prêts à rester ici ?»
La magicienne secoua la tête.
« Non, et nous partirons même bientôt. J'ai une mission à remplir pour le seigneur Rall. Et le sorcier doit atteindre une destination cruciale pour lui. »
Nietzsche s'aperçut qu'elle parlait d'un ton de commandement, exactement celui qu'elle prenait pour envoyer à la mort des dizaines de milliers d'hommes au nom de l'ordre impérial.
« Mais après notre départ, vous devriez faire une chose importante. Pour moi. »
« Bien entendu, magicienne, » dit Franklin avec une petite révérence.
« Nous te devons tant. » « Envoyez des émissaires en Dara et informez le seigneur Rall de l'existence des archives. Racontez-lui ce que nous avons fait ici. Surtout, insistez sur un point. Il a besoin de ses connaissances. Dès qu'il sera au courant, il fera venir ici des sorciers, des érudits et des experts qui vous aideront. »
« Je suis sûr que Verna relèvera le défi, » dit Nathan. « Pour la dame Abbess, surplomb du monde sera une mine d'or. » Depuis la disparition des prophéties, elle doit s'ennuyer. Je parie qu'elle amènera un tas de sœurs. Oui, les amis, vous serez entre de bonnes mains.
Nathan plissa les yeux, menaçant.
« En attendant, plus d'ânerie avec les sortilèges. »«
Nous mettrons au point des protocoles pour que ça ne se reproduise pas, » dit Gloria. « Roland et Victoria nous ont suffi. »
Un des érudits fit un pas en avant puis se tourna vers l'assistance.
« Comment trouverons-nous Dara ?»
Nommé Oliver, ce jeune homme avait un tic, cligné des yeux en permanence, comme s'il s'était déjà esquinté la vue sur trop de grimoires.
« Je me porterai volontaire pour cette expédition, » affirma-t-il, « à condition de savoir où aller. »«
Vous n'aurez qu'à suivre les vieilles voies impériales, » répondit Nietzsche, peu encline à perdre du temps avec des détails.
« Dirigez-vous vers le nord. Au-delà de la côte fantôme, vous trouverez les villes portuaires de l'Ancien Monde. Là, on vous dira où trouver le seigneur Rall. »
« Oliver, ce sera un voyage périlleux, » dit Franklin, hésitant.
« Exact, » approuva Nietzsche. « Pourtant, nous vous demandons de le faire. Parfois, il faut savoir prendre des risques. »« J'accompagnerai Oliver, »
annonça Peretta, une jeune mémoriste élancée aux cheveux noirs.
« Avant tout parce que c'est une mission importante, mais n'oublions pas que la vocation des mémoristes et des érudits est d'accumuler des connaissances. Explorer le monde sera une excellente occasion de le faire. »
La jeune femme cligna des yeux, un signe qu'elle était faite pour suivre Oliver.
« Ta compagnie m'honorerait ?»
dit le jeune homme.
« Vous apprendrez beaucoup de choses, »
intervint Nathan.
« Et vous me semblez taillé pour faire de grands explorateurs. »
Le sorcier tapota la sacoche où il gardait son livre de vie.
« Les érudits devront aussi copier les cartes que j'ai dessinées en chemin et rédiger un compte-rendu de notre voyage jusqu'à ce jour. En Dara, les gens doivent avoir le plus d'informations possibles sur l'Ancien Monde. »
Franklin regarda ses collègues mémoristes, puis les érudits. Souriant, il hocha la tête.
« Oliver et Peretta, vous pensez pouvoir vous en sortir? Serez-vous assez ambitieux pour une telle quête ?»
Des murmures coururent dans l'assemblée. Plutôt approbateurs, apparemment.
« Bien sûr !» répondit Peretta. « Nous irons jusqu'au bout !»
Prêt au départ, Nathan portait de nouveau une tenue digne de ses attentes. Sous la belle cape récupérée à Renda-sur-Bay, une chemise blanche à jabot et un gilet noir mettaient en valeur sa belle musculature. Bien entendu, sa fidèle épée ornementée pendait à sa hanche.
« Après des années à étudier de vieilles légendes poussiéreuses, » dit-il, « il est naturel d'avoir envie de devenir un aventurier. Quand vous reviendrez de Dara, mes amis, vous vous serez gagné une place dans l'histoire. »
Avant sa mort brutale, Mia avait exhumé pour Nathan une vieille carte qui indiquait clairement la position de Koh Lader à l'est de la Grande Vallée, au-delà d'une chaîne de montagnes. Le vieux sorcier s'inquiétait de devoir traverser une longue succession de pics déchiquetés.
« Ce ne sera peut-être pas si terrible, »
le rassura Nietzsche.
« Parfois, les cartographes exagèrent la difficulté du terrain. On verra bien quand on y sera. »«
Au moins, » ajouta Bannon, « nous avons une direction précise. »
Comme Nathan, il avait fait ses adieux aux gens de surplomb du monde. Pas Nietzsche. Sans un mot, elle s'était engagée sur le chemin sinueux à l'arrière de la Mesa. Alors que le trio se dirigeait vers l'est dans la vallée en pleine renaissance, la magicienne capta la présence de Mra. À travers leurs liens, elle signifia à la panthère qu'elle se réjouissait de l'avoir pour compagne lors d'un long voyage vers l'inconnu.